On a beaucoup parlé depuis l'élection de Donald Trump de la responsabilité des médias. Les médias seraient coupés du réel. L'entre-soi médiatique nous étoufferait. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Pierre Aski. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Aski, vous êtes journaliste et cofondateur de Rue 89 et puis de notre camarade Brice Couturier. Bonjour. Brice,
bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueur à France Culture, je le rappelle, pour ceux qui ne vous auraient pas suivi quand vous étiez éditorialiste au matin. Aujourd'hui, on peut vous entendre sur l'antenne lors du Tour du Monde des Idées, c'est du lundi au vendredi à 11h53 sur cette antenne. Et vous avez publié différents textes, différentes interviews, notamment dans le Figaro, pour dire qu'il y avait un parti des médias et que ce parti des médias n'avait pas voté Donald Trump. Expliquez-nous quel est ce parti des médias et en quoi celui-ci, selon vous, n'a pas voté Donald Trump.
Ben, c'est une vieille idée parce qu'en fait, je l'ai fait démarrer sur France Culture. En 2002 et 2003, j'ai fait une émission qui s'appelait l'été, qui s'appelait Contre-expertise. Et une de ces émissions, Contre-expertise, s'intitulait Existe-t-il un parti des médias? Donc, c'est pas quelque chose de nouveau chez moi, cette interrogation. Je l'avais quand je suis retourné en France en 98 après avoir vécu longtemps à l'étranger. Je me suis aperçu qu'il y avait une espèce de connivence, qu'il y avait une espèce de consensus entre les différents journalistes autour d'un stand de vérité qui, à moi, ne m'apparaissait pas si véritable que ça. Ce que j'entends par là, c'est le fait qu'un certain nombre de journalistes se sont transformés en, je dirais, directeurs de conscience. Ça s'explique assez bien, c'est que l'information est immédiatement disponible grâce au net, grâce à Internet. Donc les anciens médiateurs que nous étions, je m'inclus bien entendu dans cette opération, les anciens médiateurs que nous étions, qui apportaient théoriquement la vérité, qui donnaient les faits et qui les mettaient en perspective, cette corporation a été remplacée par « nous sommes tous des éditorialistes ». Nous avons tous à donner notre point de vue et nous disons le bien et non pas le vrai. Marcel Gauchet, qui est probablement l'auteur de cette expression « parti des médias », même si paraît-il on la trouve, c'est Georges Suffert dans Les Intellectuels en chaise longue dans les années 70, mais j'ai pas été vérifié. Marcel Gauchet écrit la chose suivante dans son dernier livre. « Le journalisme est devenu lui-même une activité critique dont le but n'est pas bêtement d'informer mais de former des consciences. C'est qu'en France, la profession a servi de bassin de recyclage au militantisme gauchiste en perdition. » Je crois que tout est dit par cette phrase.
Alors, en tout cas, on voit qu'il y a une prise de position contre ce parti des médias chez vous. Pierre Aski, vous avez l'impression d'appartenir au parti des médias?
Non, j'aime pas beaucoup cette expression, pour être très franc. Et j'ai l'impression qu'on cherche un bouc émissaire. C'est toujours évidemment le cas quand il y a une défaite, un choc de l'ampleur de ce qui vient de se passer aux États-Unis. Et les médias sont d'autant plus désignés comme bouc émissaire qu'ils ont une part de responsabilité évidente. Et en fait, moi, ça me rappelle quand même, vous l'avez pas rappelé, mais 2005, le référendum constitutionnel, tous les médias étaient pour le oui et c'est le non qui l'a emporté.
Et le Brexit britannique.
Et le Brexit, mais c'est plus récent. Mais déjà, il y a 10 ans, plus de 10 ans, on avait ce phénomène avec en plus une campagne qui s'était faite en dehors des médias traditionnels, qui s'était faite essentiellement, la campagne du non, essentiellement sur Internet. Donc on est dans un vieux dilemme, un vieux débat contradictoire. Et là, je pense qu'il y a la conjonction de deux phénomènes. D'un côté, on a effectivement ce discrédit des médias qui se sont progressivement agglomérés à l'élite dominante, administrative, économique, politique de nos États, parce que ce n'est pas un phénomène purement français, c'est un phénomène occidental, ou en tout cas des sociétés industrielles. Et deuxièmement, on a la transformation, mais alors massive, de la manière dont les gens s'informent. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est la conjonction des deux a produit la catastrophe américaine. Et je pense que pointer du doigt la presse américaine, c'est une solution de facilité.
Je vais me faire l'avocat du diable, autrement dit des médias en l'occurrence, mais tout d'abord, Pierre Aski, en quoi les médias ont-ils une responsabilité dans tel ou tel phénomène social, qu'il s'agisse de l'élection de Donald Trump, du Brexit ou d'autres faits marquants selon vous?
Alors, je vais reprendre des grands poncifs, mais l'information, le journalisme fait partie de la vie de la cité, donc du fonctionnement de la démocratie. Et donc, dans une période électorale, et nous en avons une qui approche en France, donc le débat est d'autant plus important, un bon journalisme est nécessaire à un bon fonctionnement de la démocratie. C'est pas la seule condition, mais ça en fait partie. Et on voit aujourd'hui qu'aux États-Unis, vous avez ce décalage entre la perception, ou en tout cas l'image qu'ont donné de la campagne électorale les principaux médias américains et le résultat et la perception qu'en ont eu donc les électeurs, puisqu'ils ont élu quelqu'un d'autre que le favori des médias. Donc c'est évidemment important que cette information soit véritable et soit de qualité. Mais la dichotomie, elle est dans le fait que les gens ne s'informent plus uniquement par les médias, que les médias, et ça c'est ça fait partie des, aussi des banalités de la naissance d'Internet, ont perdu le monopole de la parole et ont perdu le monopole de l'information auprès des lecteurs.
Brice Couturier, est-il aussi vrai que de considérer qu'il y a un parti des médias qui pense de manière homogène? Il y a effectivement des éditorialistes, on peut probablement essayer de tracer des tendances, mais pour le reste, pensez-vous qu'il y a un certain nombre d'opinions qui ne sont pas aujourd'hui représentées, portées par des médias en France ou aux États-Unis?
Bah écoutez, pour reprendre l'exemple des États-Unis, la BBC a publié une étude sur 200 journaux américains. Sur 200, vous en avez 20, moins de 20 qui ont soutenu plus ou moins Trump, de manière parfois avec des pincettes, parce que le Fort Wayne News Sentinel a titré « Merci à Dieu pour Mike Pence », et c'est considéré comme un soutien à Trump. Et sur les 100 principaux journaux des États-Unis, vous en avez que 2 qui ont soutenu Trump et 98 qui ont soutenu Hillary Clinton. Alors évidemment, ce déphasage, si vous voulez, en ce qu'on appelle de plus en plus aux États-Unis le One Party Media, c'est effectivement le parti unique des médias, et le ressenti de la population qui vote, elle, de l'électeur, est devenu problématique. Moi, ce qui me semble, c'est que le phénomène Trump était intéressant parce qu'il a la conjonction de deux phénomènes. D'une part, ce que je disais tout à l'heure, la conversion des journalistes en directeurs de conscience, et d'autre part, la désintermédiation dont parlait Pierre Aski à l'instant. C'est-à-dire que aujourd'hui, de la même façon que les plateformes numériques nous permettent, Uber en particulier, de mettre directement en rapport des offres de services et des demandes de services. De la même façon, Internet donne immédiatement accès à l'information en passant par-dessus la tête des journalistes. Mais c'est un phénomène plus général parce que pensez que autrefois les électeurs étaient... Il y avait une espèce de filtre entre l'électeur et le candidat qui étaient les personnalités, les médiateurs, les corps constitués. Tous ces corps constitués aujourd'hui sont court-circuités par cette désintermédiation générale, et ça a un effet évidemment sur la politique et sur l'offre politique elle-même. Évidemment, c'est pain béni pour les populistes, puisque justement leur mission, enfin leur façon de travailler, c'est de s'adresser directement à l'électeur par-dessus la tête de tous les corps constitués et de tous les journalistes.
Mais est-ce que vous trouvez en France, Brice Couturier, qu'il y a de valeur actuelle au monde diplomatique des opinions qui ne sont pas portées par un support de presse?
Non, quand j'entends partie des médias, j'entends plutôt le ronron médiatique habituel, celui qui est autorisé, si vous voulez, celui qui distribue les bons et les mauvais points, celui qui dit qu'il y a dérapage quand on dit, par exemple, qu'il y a un problème de l'immigration en France. Ça c'est le parti des médias. Évidemment, vous avez dans les franges
Les franges, Éric Zemmour, il est au cœur de tous les radios, télé de France et des magazines.
S'il était au cœur de ça serait lui qui présenterait le journal de France 2 ou de TF1 le soir. Or, il est invité pour se faire casser la figure en général. Donc, c'est pas vrai qu'il est au cœur. Simplement, il est très populaire et ça dérange le parti des médias, évidemment.
Pierre Aski.
Vous savez, il y a quelque chose qui me gêne dans cette histoire, c'est que aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Les médias, New York Times, Washington Post, les grands médias qu'on connaît, ont fait un travail de fact-checking, de vérification des faits. PolitiFact, qui est le principal site de fact-checking, a estimé que 70% des affirmations de Donald Trump au cours de l'année écoulée étaient des mensonges, étaient fausses. Lorsque les médias décrivent Donald Trump comme sexiste, raciste, misogyne et tout ce qu'on a vu, moi j'assume. Je pense qu'ils ont fait leur travail. Après, la vraie question, c'est pas de savoir pourquoi les médias ont fait ce travail, c'est de savoir pourquoi la vérification et la dénonciation de ces faits qui sont avérés ne portent pas et a fait que les gens ont quand même voté pour ce personnage. Le vrai problème, il est là. Que les journaux ne soient plus prescripteurs, moi, ça ne me dérange absolument pas.
Évidemment, vous êtes du côté d'Internet, vous, avec votre site, évidemment.
Non, moi, je suis
partie de
je
ceux
suis
qui
journaliste.
Ont dynamité le système.
Je suis, à vos yeux, je pense que je suis dans le parti des médias, mais je pense que c'est un mauvais procès. Je pense que il y a un vrai problème dans la sociologie des journalistes. On le sait.
On le sait. Le sait-on?
Mais oui, ça a été beaucoup dit.
Pierre Aski, on peut considérer aujourd'hui, on le voit par exemple à la faveur de la crise d'Itélé, on voit qu'aujourd'hui les journalistes, notamment les jeunes journalistes, constituent une profession qui est très précarisée, qui va de CDD en CDD, qui connaît donc de manière extrêmement concrète ce qu'est le chômage. On voit aussi que la plupart des médias sont en prise, je parle des médias privés avec des oligarques, qui rachètent ces médias et qui le font généralement sans avoir véritablement la presse chevillée au corps, contrairement à d'autres propriétaires de presse auparavant. Je pense par exemple au destin de l'Obs ou à d'autres titres. Donc on voit bien quand même qu'on a affaire à une situation qui est beaucoup plus hétérogène qu'on le dit.
Oui, quand je parlais de la sociologie des journalistes, je pensais au fait paradoxal que le niveau d'éducation des journalistes, par exemple, a énormément augmenté en France au cours des 20-30 dernières années. Mais ça a eu un effet pervers qui est qu'effectivement, ils sortent tous du même tronc, globalement, Sciences Po, École de Journalisme, et qu'on a eu une uniformisation. Et que cette
idéologique aussi, parlez-en.
Oui, mais il y a...
Mais c'est une uniformisation sociologique, Brice Couturier. Est-ce qu'on ne peut pas justement la sociologiser, c'est-à-dire tout simplement considérer que les journalistes ayant eu un destin, donc le rapport au chômage, à la précarité, tout cela les rend quand même plus sensibles à la souffrance, à la misère sociale, peut-être que d'autres professions, et c'est la raison pour laquelle leur cœur penche bien souvent plutôt à gauche plutôt que d'autres professions qui sont moins confrontées.
Mais ça ne serait pas un problème. Les instituteurs, dans les années 70-80, pensaient à gauche, mais ça ne les empêchait pas d'enseigner de manière neutre l'histoire de notre pays. Par exemple, ce qu'on reproche au Parti des médias, si vous voulez, ce n'est pas tant ce qu'ils votent, ça les regarde. C'est la façon dont ils reflètent la manière dont ils pensent dans la manière dont ils rendent compte des faits. Et ça, c'est beaucoup
plus problématique. Qu'est-ce qu'il y a comme distorsion, par exemple, puisque si vous prenez l'élection américaine, comme le rappelait Pierre Raski, le fact-checking a été fait pour... disons, soumettre à l'épreuve les propos de Donald Trump. Et là, le parti des médias, comme vous dites, a fait plutôt son travail. Sauf si vous contestez ce travail qui a été fait.
Absolument pas. Évidemment, Donald Trump est un menteur congénital, bien entendu. Mais justement, c'est pour ça qu'il gagne. J'ai trouvé dans la presse américaine conservatrice, c'est bien de la lire aussi, dans The American Spectator, un article qui explique pourquoi la presse n'a rien compris au phénomène Trump. Et voilà ce qu'en écrit l'auteur. La bulle médiatique, ce qu'ils appellent « Media's Cultural Bubble », la presse a pris Trump de manière littérale sans le prendre au sérieux, ses supporters, eux, l'ont pris au sérieux sans le prendre de manière littérale. Ah, évidemment, si on s'attaque à tous les mensonges, à toutes les bêtises, à toutes les fausses informations que donne Donald Trump, évidemment, ça ne sert à rien, parce que c'est pas ça qu'entendent les électeurs. Ce qu'entendent ces électeurs, c'est ce qu'il y a au derrière. Ils n'entendent pas de manière littérale. Ils entendent simplement quelqu'un qui parle de leurs problèmes de crainte sur leur identité culturelle, et c'est un problème de fond que le Parti des médias ne veut pas entendre parler, et lui, il a pris en charge ce problème, et évidemment, il gagne pour ça aussi.
Mais qu'auriez-vous dit si les médias...
Parce que celui qui transgresse, évidemment, a une prime.
Qu'auriez-vous dit si les médias n'avaient pas fait ce travail de fact-checking, n'avaient pas fait
un
travail
pas fait leur boulot
assez formidable de reportage sur le terrain? Il y a eu un travail assez extraordinaire qui a été fait de sillonner l'Amérique, y compris dans les zones. Là où il y a eu un problème, c'est qu'effectivement, 1+1 n'a pas fait 2, c'est-à-dire que cette image de l'Amérique réelle n'a pas entraîné dans les médias la prise de conscience que Donald Trump mettait le doigt sur un vrai problème dans la société américaine. Et leur dégoût du personnage Donald Trump a fait que, comme tout le monde et comme vous, je pense, parce que si j'ai bien lu votre entretien au Figaro, vous n'aimez pas Donald Trump.
Ah, certainement
pas,
non.
Si vous étiez éditorialiste dans un journal américain, vous auriez pris parti pour Hillary Clinton.
Eh ben non, justement. Moi, si je suis journaliste, je ne prends pas parti. Si je suis éditorialiste, comme je l'ai été à France Culture tous les matins pendant 5 ans, je prends parti parce que c'est mon métier. Mais il ne faut pas mélanger la relation des faits et l'engagement politique. Les éditorialistes ont un point de vue et chacun sait ce qu'il est. Donc, quand on m'entend, on sait bien que moi, je suis libéral, je crois effectivement au lien transatlantique et je suis très, très inquiet pour l'avenir de ce lien transatlantique avec un isolationniste à la Maison Blanche, mais chacun sait d'où je parle.
Mais vous quand vous réjouissez d'une défaite de la pensée, là.
Je comprends pas ce que vous dites.
Il y a une certaine jubilation dans ce que quand vous décrivez l'échec du parti des médias, comme vous dites, alors que cet échec, il marque aussi votre propre échec quelque part.
Parce que
ce ne sont pas vos idées qui ont triomphé.
Mais non, c'est pas du tout mes idées qui ont triomphé et j'en suis furieux. Mais si vous voulez, moi, je rends le parti des médias responsable de la victoire de Donald Trump. Parce que s'il n'y avait pas ce déni de réalité, s'il n'y avait pas cette intimidation morale permanente, Trump n'aurait pas gagné.
Qu'est-ce que les médias auraient dû faire? Puisque vous admettez que le le fact-checking a été fait et qu'il était nécessaire. Vous admettez donc qu'il y a eu un travail journalistique de fait. Est-ce que c'est l'unanimisme que vous percevez qui a été responsable en quelque sorte du vote Trump ?
Mais oui, bien sûr, quand vous avez tous les médias contre vous, vous avez une prime et ça fait grimper, évidemment. C'est ce que comprenait très bien Jean-Marie Le Pen, qui faisait le singe parce qu'il n'avait pas envie d'avoir le pouvoir, mais qui mettait les rieurs de son côté. Et c'est ça qu'a fait Trump. C'est comme ça qu'il gagne, parce qu'il avait le parti des médias contre eux. Et dites-vous bien une chose, les électeurs votent de plus en plus contre nous, contre le prêchi-prêcha médiatique qui les indispose. Et c'est très dangereux, ce prêchi-prêcha médiatique, cette pensée unique, parce qu'effectivement, ça provoque une réaction en backlash qui est celle d'électeurs exaspérés qui votent systématiquement contre nous dorénavant.
Pierre Assis. Je pense que les électeurs de Donald Trump ignorent les médias. Ils n'ont pas voté contre les médias, ils ont un autre canal, ils s'appartiennent à une autre Amérique qui s'informe différemment.
Mais ils ont également des médias qui leur parlent. Fox News, par exemple, a fait campagne en faveur de Donald Trump, c'est un média.
Fox News a eu moins d'impact que Brabant, par exemple, ce site dont on a découvert d'ailleurs à cette occasion l'existence, qui est une sorte de tout à l'égout de l'information et dont le rédacteur en chef est maintenant le conseiller spécial de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Mais est-ce que cela signifie tout simplement que les médias traditionnels se sont coupés des individus, ou plutôt que les individus aujourd'hui ne regardent plus comme avant les médias traditionnels? Ça n'est plus le New York Times uniquement qui fait l'élection.
Mais bien sûr, mais c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un éclatement complet de l'offre, mais de l'offre d'information et non pas de l'offre médiatique, et je pense qu'il faut distinguer médias et information, et que tout le problème aujourd'hui réside dans cette distinction.
Eh bien, nous verrons à 8h20, nous serons rejoints par notre camarade Xavier Delaporte. Nous verrons avec lui de quelle manière les individus s'informent aujourd'hui, puisqu'effectivement, la question posée est de savoir comment les médias doivent s'adapter aux nouveaux modes de consommation de l'information.